France Info.
Quand le président de la deuxième puissance économique mondiale débarque en France, cela donne donc une première journée riche d'échanges. Et à l'issue, ces mots d'Emmanuel Macron et ce ton qu'on va essayer de décrypter. Écoutez.
Nous voulons être en capacité de protéger nos intérêts à l'égard de tous. Elle n'est pour autant dictée par aucune montée des tensions à l'international. C'est pourquoi ce que nous souhaitons, ce que nous voulons, c'est un cadre de concurrence loyal, réciproque, légitime, et nous avons ainsi pu, sur l'ensemble des dossiers, clarifier les différents éléments pour assainir la relation économique et lui donner un nouvel élan lorsque, sur différents secteurs, des éléments de non-réciprocité apparaissent.
Voilà, je salue Philippe Lecor. Bonsoir. À vous, chercheur à la Harvard Kennedy School, prof à l'ESSEC. Je le disais, vous êtes notre expert sur cette partie chinoise, parce qu'on a le sentiment quand même que ça a été un peu rugueux, disons-le, cette rencontre entre les trois, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, c'est important, et Xi Jinping. Autant ils donnent l'impression d'avancer, notamment sur des questions comme l'Ukraine, autant personne ne cache de réelles tensions sur le commerce. Est-ce que c'est aussi votre sentiment?
Oui, je crois que tout à l'heure, le président parlait des différents points. Il aurait pu parler aussi des différences qui, finalement, demeurent entre la Chine d'un côté, entre l'Union européenne et la France de l'autre. Je crois qu'un moment important, ce matin, la présence de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a ensuite sorti un communiqué de presse très clair, mettant en exergue les différences, le manque d'accès au marché chinois pour les entreprises européennes, la question des aides d'État chinoises aux entreprises. Vous savez que les Chinois nous accusent souvent de protectionnisme, mais en même temps, en Chine même, il est très difficile pour les entreprises étrangères et européennes en particulier d'exister. Hein, de plus en plus difficile. Vous avez eu beaucoup de départs d'expatriés, y compris d'entreprises françaises. Et puis il y a la question ce qu'on appelle chaîne de production, hein, et en particulier le domaine des véhicules électriques dont on parle beaucoup en ce moment. Sur toutes ces questions, bien entendu, le gouvernement chinois a nié en bloc, en fait, les accusations, entre guillemets, que l'Europe lui fait, sachant que, comme vous le savez, une enquête de la Commission européenne est en cours sur les subsides accordés par l'État chinois aux véhicules électriques. Et en mesure de rétorsion, notamment, il y a une possible contre-sanction contre le cognac français.
Et Emmanuel Macron, qui a d'ailleurs offert une bouteille de cognac à son hôte, laisse entendre, alors il y a évidemment une bonne part de com' aussi dans ces journées-là, mais laisse entendre que le président Xi Jinping aurait accepté de temporiser, au moins temporairement. C'est ce qu'on comprend.
Vous savez, le régime chinois sous Monsieur Xi est devenu particulièrement transactionnel, comme on dit. C'est-à-dire que vous ne pouvez discuter de rien s'il n'y a pas un donnant-donnant. Vous savez, les Chinois parlent de win-win. Nous, on parle de donnant-donnant. Par exemple, la mesure qui a été annoncée sur les visas qui vont être favorisés pour les hommes d'affaires chinois et pour les touristes, eh bien, c'est une réponse au fait que les Français, jusqu'en novembre prochain en tout cas, peuvent se rendre en Chine sans visa pendant 15 jours. Donc évidemment, les Chinois ont dit « vous devez nous donner la même chose » et on doit s'attendre à d'autres annonces qui finalement faciliteront le dialogue du point de vue chinois, mais qui seront autant de concessions en fait que nous aurons face à une Chine intraitable. Et même si on a entendu que sur la Chine a promis de ne pas vendre d'armes, on sait bien qu'entre le verbe et l'esprit du verbe, il y a une énorme différence. Il suffit d'en juger par ce qui se passe en mer de Chine du Sud ou dans le détroit de Taïwan, bien loin de la France, mais où les promesses de ne pas construire d'îlots artificiels ou de patrouiller en haute mer dans cette région sont restées lettre vaine.
Henri Vernet, tout le monde a un peu essayé de montrer les muscles aujourd'hui. Enfin, quel regard vous avez sur cette première journée? On parlera peut-être de diplomatie plus précisément après, mais même si c'est un ensemble de faits.
Oui, montrer les muscles, le terme est assez adapté, puisqu'on parle de guerre commerciale, même si officiellement elle est niée, que ce soit du côté de l'Élysée, même de la Commission européenne. Mais enfin, c'est quand même de ça qu'il
on
s'agit.
On parle de protéger
d'ailleurs.
L'économie.
Oui, bien sûr. Non, mais et les Chinois, eux, accusent l'Europe de protectionnisme. Et puis même, ça fait maintenant quelque temps que depuis son avènement, que cette Commission européenne, qui se veut une commission stratégique, a parlé à désigner la Chine comme un rival systémique. Donc c'est aussi pour ça que Ursula von der Leyen, la patronne de cette commission, était là aujourd'hui ce qui avait déjà été le cas dans de précédents formats, pour bien montrer que, face à un géant comme la Chine, de toute façon, pour essayer de peser, il faut que l'Europe soit minimum unie, parce que c'est pas la France, avec ses petits bras, qui va y résister. Donc, oui, chacun montre ses muscles. Néanmoins, il faut quand même bien reconnaître que la Chine arrive avec des longueurs et des longueurs d'avance qui sont énormes, parce qu'en réalité, on a vu, et singulièrement pendant la crise du Covid, à quel point l'Europe, la France, sont dépendantes de l'industrie chinoise. Bon, les exemples ont abondé, des masques, certains médicaments, etc. Mais cette dépendance, elle n'a pas disparu depuis la fin de la pandémie. Donc, montrer ses muscles, oui, obtenir quelques rééquilibrages. Parce qu'il y a aussi le fait que pendant des années, pendant très longtemps, les Européens ont péché par naïveté. Ont été, parce qu'au nom de la libre concurrence, ont vraiment accueilli à bras ouverts, en quelque sorte, les Chinois. Et là, l'exemple qui était évoqué par notre expert, quand il a parlé des véhicules électriques. Là, c'est vraiment un domaine qui est crucial, parce que on voit bien qu'aujourd'hui, les grands constructeurs européens, d'ailleurs, il y a eu ces annonces ce matin même par la France, par le gouvernement, le salut, en quelque sorte, des grands constructeurs, il est dans le véhicule électrique. Or, les Chinois, à grands coups de subventions d'État, qui ne disent pas leur nom, mais qui en sont, donc de concurrence déloyale, sont passés, je crois, en quelques années, de 0 à 12 millions de véhicules importés par les Européens. Donc, c'est énorme, et surtout, ça pourrait tuer dans l'œuf, enfin, j'exagère un peu, mais néanmoins vraiment considérablement handicaper les efforts européens en la matière, comme ça a été le cas pour des industries aussi stratégiques aujourd'hui que le photovoltaïque, l'éolien, etc., où par les mêmes méthodes, les Chinois prennent cet avantage. Donc montrer ses muscles, oui, enfin, c'est surtout essayer de rééquilibrer, mais on part de très très loin.
Ça. Et après des années de, j'ai retenu le mot naïveté, on va faire réagir Lilian Alemania et puis notre expert.
20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bon.
On est ce soir en compagnie de Lilian Alemania de Libération, Henri Vernet du Parisien aujourd'hui en France et notre expert Philippe Lecor, chercheur à la Harvard Kennedy School et Patricia Lemonnière qui s'installe également, grand reporter spécialiste des questions internationales. Juste un mot sur la naïveté et sur la photographie qu'on n'a peut-être pas faite, Philippe Lecor. Le déficit commercial de la France, de la France vis-à-vis de la Chine, il est très clair, hein, 46 milliards. Aujourd'hui, la France importe vraiment beaucoup plus qu'elle n'exporte.
Oui, et ce gouffre n'a fait que se multiplier, puisque depuis 2019, notamment on parlait des années Covid, en fait la dépendance à l'égard des chaînes de production est plus importante. Je pense qu'on peut revenir sur cette question de la naïveté, mais justement il y a 5 ans, lorsque le président était à Paris et Emmanuel Macron l'avait reçu à l'époque avec Angela Merkel et Jean-Claude Juncker, l'Europe avait justement commencé la fin de la naïveté en appelant la Chine un partenaire, un concurrent et un rival systémique. Alors cette appellation n'a pas été très appréciée à Pékin, mais répondait à un changement de position de la part de l'Europe. Et il est très important que la dimension européenne soit mise en exergue ici, parce que, comme le disait Henri Vernet, France seule ne peut pas obtenir grand-chose sur le plan commercial, en tout cas. Rappelons que le but principal de l'Union européenne, c'est d'être un bloc commercial. C'est aussi un bloc qui adopte des défenses, des mesures de défense commerciale et en investissement, le filtrage des investissements. En revanche, sur le plan diplomatique, sur le plan politique, il est clair que la France peut jouer un rôle à elle seule. Mais en tout cas, sur le plan économique, l'heure n'est pas, ne doit pas être non seulement à la naïveté et non pas au compromis, parce que nous avons un marché de 450 millions de consommateurs. Les Chinois et d'investir dans des technologies notamment numériques et dans tout ce qui est vert, tout ce qui est photovoltaïque, tout ce qui est panneaux solaires et technologies vertes. Et donc, ce sont des technologies qui sont très importantes pour l'avenir de l'Europe. Et c'est pour ça...
Sur lesquelles les Chinois ont une avance conséquente.
Pardon.
Sur lesquels, pardon, je vous ai interrompu, mais sur lesquels toutes ces technologies vertes dont vous parlez, sur lesquelles les Chinois ont une avance conséquente.
Eh bien, ils ont une avance, et notamment en concernant les panneaux solaires, parce qu'il y avait eu une décision de l'Allemagne, il y a 10 ans, de favoriser les produits chinois. Et là, nous avons un problème, c'est-à-dire que il y a une sorte de divergence d'approche entre l'Allemagne et la France. D'un côté, vous avez l'industrie allemande qui dépend en grande partie, notamment l'industrie automobile, qui dépend en grande partie du marché chinois. Et de l'autre, vous avez la France, dont le déficit se creuse et dont l'industrie automobile n'a pas réussi à percer sur le marché chinois.
Lilian Alemania, elle se fait vraiment mieux respecter la France quand elle arrive en européenne comme ça, armée de, si je puis dire, de Ursula von der Leyen.
Ah ben c'est sûr qu'aujourd'hui elle a plus le choix, elle est obligée. Et Philippe Le Cor l'a dit, on est un bloc économique qui ne peut pas le faire tout seul. D'ailleurs, avant, il a.
Mais ça veut dire qu'il y a un bloc économique européen.
Il tente.
On peut évoquer les petites divergences avec l'Allemagne, notamment.
Le problème, c'est que la naïveté dont on parlait, elle date d'il y a très longtemps. Je me souviens d'avoir suivi Arnaud Montebourg en 2011 dans la campagne pour la primaire socialiste, et déjà lui parlait de l'Europe comme les idiots du village mondial. Dans les idiots du village mondial, en disant mais on est trop naïf par rapport à la Chine, dans cette démondialisation qui portait à l'époque, et on avait une classe politique qui était beaucoup moins sur la souveraineté comme on l'est aujourd'hui, avec y compris Emmanuel Macron. Donc il y a un retard, j'allais dire réaliste, qui a été pris sur la question de la protection aussi des entreprises françaises, du marché français. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui de jouer du protectionnisme d'un côté et en même temps d'avoir besoin de commerce international et mondial pour pouvoir trouver des débouchés industriels et faire en sorte que une croissance durable puisse exister.
Alors ce qui est frappant, Patricia Lemonnière, c'est que Xi Jinping dit, enfin ça tout ça ne l'empêche pas de dire que d'abord le soi-disant problème de surcapacité de la Chine n'existe pas. On demandera à notre expert ce qu'il en est, les Européens disent ce qu'ils ont à dire, mais alors le Chinois aussi, quoi.
Non, mais le président chinois dit qu'en gros, comme il a beaucoup de surcapacité, ça va faire baisser l'inflation en quelque sorte, parce que les prix vont baisser en quelque sorte par l'afflux de produits, puisqu'on sait
exactement.
Que l'inflation, c'est la demande qui crée l'inflation. Non, mais ce que je crois, c'est que les Chinois, enfin, vous l'avez peut-être évoqué, mais ont tout intérêt de venir avec la France, parce que la France, elle a cette position vis-à-vis des États-Unis, elle veut cette autonomie stratégique, elle veut tout ça, donc elle veut avoir cette position à part. Et ça plaît beaucoup aux Chinois par rapport aux autres pays, d'avoir cette France qui peut paraître comme un peu comme une porte d'entrée, un peu à part.
Pourquoi c'est plus simple pour eux?
Parce que pour
un interlocuteur.
Non, parce que pour eux, c'est un interlocuteur qui est pas aligné à 100%. Avec les États-Unis comme est l'Allemagne, par exemple. Donc, avec l'Allemagne, on fait du business, mais avec la France, on peut faire un peu de politique internationale, parce qu'elle a une position particulière depuis, d'ailleurs, le général de Gaulle. Donc, ça les intéresse, mais je crois qu'ils sont un peu naïfs de croire ça, parce qu'à la fin, la France retourne, malgré tout, dans un giron américain, en quelque sorte, sous ce parapluie-là, en tout cas. Donc, mais pour eux, dans leur politique, ça leur plaît. Mais il faut pas être totalement non plus naïf sur un plan international, en fait, parce que la Chine veut faire du business avec nous, mais elle ne nous considère comme globalement quantité négligeable.
Quand vous dites nous, là, on revient à l'Europe.
Je reviens à l'Europe et à la France en particulier aussi, parce que dans sa lutte globale, tous les propos du président Xi, c'est une détestation quand même de toutes les valeurs qu'on représente et pour lesquelles on veut se défendre. Il suffit de lire ces 6 ou 7 commandements en théorie qui étaient parus en 2017 ou 2018 pour voir à quel point nos sociétés sont très éloignées.
Vous êtes d'accord avec ça, Henri Vernet?
Oui, globalement, oui. Sauf que sur la quantité négligeable, oui et non, parce que quand même, l'Europe est un marché qui s'affirme.
Et voilà,
c'est ça. Parce que ça, quand même, ça pèse.
Sauf pour l'économie.
Et c'est un argument. Et là-dessus, il y a quand même des messages qui sont passés. peut-être d'abord les enquêtes qui sont menées, ce qu'on appelle le de-risking, cette façon un petit peu
on
de
va
répondre.
Voir.
Non, mais ça reste quand même.
Attends,
ça reste,
expliquer
c'est assez nouveau. Bah, c'est-à-dire aller voir d'abord, essayer de diminuer la dépendance européenne vis-à-vis de certaines zones, donc à commencer par la Chine, cette espèce de mono-concurrence quoi, qui était au bénéfice des entreprises et des surproductions, qui avaient été surproductions chinoises. Donc c'est se débarrasser un petit peu de ça et surtout d'aller vraiment regarder ce qu'il y a derrière les conditions de production en Chine, donc non seulement les subventions, mais également, enfin écoutez, les Chinois bien souvent se balancent éperdument des normes que nous respectons en termes environnementaux, hygiène, etc. Donc il y a vraiment maintenant une espèce de recherche quand même d'égalité, alors sinon parfaite, en tout cas de rechercher un petit peu ça, donc pour que la concurrence ne soit pas vraiment sauvage. Et je reviens à cette idée, c'est quand même que au moment où ils sont en confrontation quasiment directe avec les États-Unis, les Chinois ont quand même besoin du marché mondial européen, même s'il y en a bien d'autres. Il y a toute l'Asie qui est extrêmement puissante aussi et d'autres qui se développent. Mais ça, c'est quand même une arme qui est importante.
Oui, mais ils nous prennent comme un marché,
c'est l'heure du fil info,
un marché mondial que pour, en fait, vendre leurs produits. Mais le jour où on va mettre des taxes très fortes, vous verrez les rétorsions qui seront sur le marché français.
Elles sont déjà
et
à
là, on a des gros risques parce qu'on est dépendant.
Alors...
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
Henri Bernet est là pour Le Parisien aujourd'hui en France, Lilian Alemania pour Libération, Patricia Lémonière, spécialiste des questions internationales, et Philippe Lecor, chercheur à la Harvard Kennedy School. On va écouter Xi Jinping qui répondait pas directement dans la conférence de presse sur les aspects économiques, même s'il les a évoqués, mais qui donne une réponse attendue par la France, l'idée d'une trêve olympique. Écoutez.
Mesdames et messieurs, le monde d'aujourd'hui est loin d'être tranquille. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et grand pays responsable, la Chine appelle, avec la France, à une trêve dans le monde entier à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris.
Philippe Lecor, sans oublier ce qu'on s'est dit sur la partie économique, comment vous comprenez cette concession, finalement, que fait Xi Jinping à la France, à l'Europe? Aidez-nous à décrypter ça.
Alors, d'abord, je suis d'accord avec ce qui a été dit sur le fait que nous ne partageons pas beaucoup de valeurs avec le régime chinois. Et le document numéro 9 qui avait été publié en 2012, qui indique que tout ce qui vient de la démocratie occidentale est à jeter aux oubliettes, est une preuve éloquente de cette différence qui, depuis, n'a fait qu'être soulignée par les actes et par les paroles de ce régime. Maintenant, concernant l'Europe et concernant ce que vient d'annoncer le président Xi. Bon, il est vrai que la France peut jouer un rôle en tant que membre permanent du Conseil de sécurité entre, d'un côté, la Chine et, de l'autre, les États-Unis, parce que nous sommes extrêmement tendue sur le plan géopolitique, avec d'un côté le conflit en Ukraine, de l'autre au Moyen-Orient, et énormément de tensions en Asie, en Indo-Pacifique, et en particulier dans le détroit de Taïwan et en mer de Chine du Sud. Alors ces sujets-là, bien entendu, n'ont pas été abordés parce que la Chine ne veut pas les aborder, mais concernant le conflit ukrainien, qui concerne évidemment européen au premier chef, le président Macron pourra se féliciter du fait que son idée de proposer une trêve olympique à Xi Jinping a été plutôt acceptée. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, en tout cas pour la France, c'est plutôt un succès. Maintenant, si vous voulez, comme je l'indiquais tout à l'heure, je pense hélas que la Chine ne traduit pas toujours en actes ses paroles et que la visite pour le 60e anniversaire des relations diplomatiques, c'est une chose. Sur le terrain, il se passe d'autres choses entre les entreprises chinoises et les entreprises russes, entre la marine chinoise et les pêcheurs philippins. Et dans le détroit de Taïwan, où les avions chinois ne cessent de s'approcher des côtes taïwanaises.
Voilà, trêve, c'est vrai que ça suppose qu'il aille, par exemple, dire à Vladimir Poutine, son allié, stop. Enfin, est-ce qu'il est. Est-ce
bah, que vous Poutine, avez, il se trouve que ça tombe bien, parce que Poutine est censé aller bientôt en Chine, à Pékin, a priori
absolument...
dans les 15 jours. Et puis, et en plus, à peine aura-t-il quitté la France, que Xi Jinping lui-même ira chez des alliés, enfin des alliés, en tout cas des des amis, des admirateurs de Poutine que sont la Hongrie d'Orban et la Serbie.
Absolument, il fait deux escales
européennes. Il y a cette étoile-là.
Vous partagez les doutes sur le suite.
Bien sûr, mais sur tous les plans.
Il est urgent d'attendre de se réjouir.
Ah mais complètement, non mais il a tout à fait raison, Philippe Lecor, mais ça sur tous les plans, non seulement sur les suites qu'aura cette initiative concernant la trêve olympique, parce qu'à la fin des fins, c'est Poutine tout seul qui décidera, et que son ami entre guillemets Xi Jinping le lui demande ou pas, c'est vraiment lui qui aura la main sur le curseur, mais également sur une autre chose importante a été dite ce matin, c'est-à-dire que Xi Jinping s'est engagé donc devant Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron à en gros veiller à ce que réellement son pays, donc les entreprises chinoises n'exportent pas, sinon des armements directs, parce que ça a priori c'est pas le cas vers la Russie, mais en tout cas il y a des composantes, il y a des, vous savez, des matériaux qui sont à double usage, civil et militaire. Bref, tout ça c'est quand même assez poreux. Il peut se passer des choses. Les Américains d'ailleurs ont de très forts soupçons sur une contribution vraiment importante de la Chine à l'effort de guerre des Russes. Et bien là, Xi Jinping s'est engagé à veiller à cela, à ce que ça s'arrête. Et ça c'est quand même la première fois. Maintenant, encore une fois, faudra-t-il que les actes suivent les paroles.
Qu'est-ce qu'on l'Europe et la France peuvent raisonnablement espérer de la part de Xi Jinping, Lilian Alemania? Il va vraiment aller tendre le bras de Vladimir Poutine?
Non, surtout que la Russie est devenue un partenaire commercial très important.
Qu'est-ce qui peut évoluer?
Le marché russe, c'est aussi, avec la guerre, s'est détourné de l'Europe vers la Chine. Donc il y a plus de 25% des échanges commerciaux entre les deux pays depuis le début de la guerre. Donc c'est très important. Maintenant, pour que le commerce international fonctionne, parce que l'économie chinoise fonctionne aussi sur le commerce international, il ne faut pas que les conflits s'internationalisent au-delà, s'ils deviennent régionaux, s'ils sont régionaux, à la limite, ça affaiblit l'Europe ou les États-Unis de l'autre côté, et ça fait les affaires de la Chine. En revanche, si ça s'internationalise, là, si les échanges chinois... les échanges internationaux se bloquent et ça empêche les exportations chinoises. Ouais. C'est un problème aussi pour le président chinois. Maintenant, moi je voulais aussi juste rapidement
qu'on parle de l'enjeu politique aussi côté français.
On ne parle plus des enjeux même de droits humains. C'est-à-dire que c'est une visite où on ne parle
Alors,
plus
Valérie
des Ouïghours.
Alors Valérie Ayès ce matin.
On ne parle plus des droits.
Parle du génocide, prononce le mot de génocide des Ouïghours.
Ce qui n'a pas été validé
en plus par aucune juridiction internationale, elle va très loin.
C'est la seule, nous, de manière médiatique, on ne débat plus de ces sujets-là à la visite d'un président chinois.
Mais le président peut évoquer le sujet dans une aparté, mais c'est pas ce qui fera changer. Enfin, faut pas se leurrer. On a trop d'enjeux. Et ce qui est intéressant dans cette acceptation,
de la réelle politique pure et dure,
acceptation par le président chinois de la trêve olympique, c'est que c'est conforme à la politique chinoise. La politique chinoise, c'est de ne pas s'impliquer, d'avoir une position médiane entre tout le monde. C'est ça. Même si en interne, le discours qui est porté par rapport à la population est un discours qui reprend le verbatim russe. Mais sur le plan international, la Chine est toujours pour la paix, la calme.
Pour des raisons économiques.
Mais c'est une vitrine et une façade. Et qui compte aujourd'hui, et que simplement cette trêve en est une illustration.
Henri Vernet, deux mots sur l'enjeu politique pour Emmanuel Macron et pour Ursula von der Leyen. On a quand même des européennes dans un mois.
Bien sûr. Voilà. Or, la Chine, c'est sulfureux. C'est en effet quelqu'un qui piétine tous les matins les droits humains, qui déporte et qui massacre, réprime les Ouïghours, les Tibets. Bref, c'est pas un régime respectable. Et on voit bien d'ailleurs, par exemple, Glucksmann s'en est saisi en parlant d'une visite, d'un accueil tapis rouge à un dictateur. Il a parlé d'obséquiosité. Donc, et Valérie Ayer, moi, je serais vraiment curieux de savoir comment a réagi le président quand il a entendu ça.
Est-ce qu'elle a eu un début de semblant de feu vert? Parce que comment elle peut prononcer des mots pareils?
Alors, c'est vrai que ça équilibre un peu. Parce que malgré tout, il y a un petit équilibre parce qu'elle est en campagne et que l'intérêt du président...
Et elle a besoin de ne pas perdre de voix au profit de Raphaël Glucksmann, qui est un spécialiste du génocide des Ouïghours.